Le texte du message, c'est le psaume 121. Et peut-être vous pouvez déjà trouver le psaume 121, 1, 2, 1. Mais avant de lire le psaume, je veux préciser et vous rappeler que ce psaume fait partie d'un mini-recueil de 15 chants, qui est donc dans la plus grande recueil de 150 chants que sont les psaumes. Ils ont tous le même titre. Imaginez que vous partez au camp, dans un camp chrétien ou dans une retraite de l'Église, et vous voulez porter avec vous un petit recueil de chants. Et bien sûr, à cette époque-là, ils n'avaient pas la place d'amener avec eux le gros rouleau des 150 psaumes. Donc, ils ont choisi une quinzaine de chants qui étaient spécialement à propos pour leur voyage. Ce sont souvent donc appelés des chants de voyage ou des chants de pèlerinage. Le titre qui est donné à chacun, Shir Amat Alot, veut dire « cantique des degrés ». Ou cantique, parfois c'est traduit de montée. Hein, c'est les psaumes 120 jusqu'au psaume 134. Et dans ces 15 psaumes, il y a 10 qui sont anonymes, 4 qui sont attribués à David et 1 qui est attribué à Salomon. Donc c'est des psaumes qui sont écrits à différents moments, différentes époques, mais rassemblés pour être chantés ensemble pendant que le peuple de Dieu voyager. Dans la Bible de Sommer, le titre qui est donné pour chacun de ces psaumes, c'est « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Et en fait, trois fois par an, il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de Pentecôte et la fête des Tabernacles, tous les hommes d'Israël étaient censés quitter leur habitation et venir tous ensemble au même temps à Jérusalem. Donc, ils montaient, Jérusalem est donc sur la colline, sur la montagne, et ils montaient tous ensemble, ces pèlerins, pour se retrouver au moins trois fois par an. Et ils venaient souvent de très, très loin. On sait même, aux périodes des Actes, qu'ils venaient de partout dans le Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Donc, les cantiques de montée étaient les chants que ces pèlerins chantaient en prenant la route vers Jérusalem. Et ces 15 psaumes se divisent en 5 groupes de 3. Alors, je ne dis pas que l'organisation est inspirée, au même titre que les paroles, mais il y a une logique à son organisation et ça peut nous aider à mieux comprendre ces 15 psaumes. Et je crois que le Saint-Esprit a intérêt même du façon que ces psaumes sont regroupés. Donc, sans trop forcer, je pense qu'il y a, et plusieurs ont fait la remarque, qui a une logique dans l'organisation de ces psaumes. Les cantiques de montée donc, se divisent en 5 groupes et 3 psaumes dans chaque groupe. Le premier psaume dans chaque groupe expose une situation de détresse. Le second psaume met l'accent sur la puissance de Dieu pour garder, pour délivrer, pour construire aussi. Et puis le troisième a le thème de sécurité quand ils arrivent à Sion. Regardez dans vos Bibles. On va regarder les premiers deux groupes rapidement. La situation de détresse dans le psaume 120. Par exemple, les versets 6 et 7. Les deux derniers versets du psaume 120. Assez longtemps, mon âme demeure à demeurer auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Ça, c'est la situation de détresse. Et puis, nous voyons la puissance du Seigneur pour garder notre psaume d'aujourd'hui, le psaume 121. Je lis juste le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis, on trouve ce thème de la sécurité à Sion, le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Vous voyez, ils sont arrivés. Tout est sain et sauf. Le deuxième groupe, c'est la même chose. Regardez le psaume 123, le dernier verset. « Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux. du mépris des hautains. Vous voyez la situation de détresse encore. Et puis, le psaume 124, « La puissance du Seigneur pour garder. » Je lis le verset 6, c'est 7. « Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et puis le psaume 125, la sécurité qui se trouve à Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. C'est là où est Jérusalem. Elle ne chancelle point. Elle est toujours affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Donc ça vous donne une idée de comment progressent ces psaumes. Et puis le dernier groupe, les trois derniers psaumes de ce groupe sont vraiment des cantiques d'arrivée. Ils célèbrent le fait qu'ils sont vraiment finalement arrivés à Jérusalem. Donc, il y a une progression. Dans le psaume 120, nous l'avons lu déjà, mais il commence où? Il dit au verset 5, hein, je pense pas qu'on a lu ce verset, le psaume 120, verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. » Donc, Kédar veut dire noir. Il habite au milieu des païens. Il est malheureux. Il habite dans le noir. Et quand on arrive à la fin de ce recueil, le psaume 134 nous dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. » Donc, ces nuits à Jérusalem, ils sont bénis parce qu'ils sont dans le temple. Donc, ce sont des chants de pèlerinage, ce sont des chants de voyage pour des pèlerins ou pour des gens de voyage. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes des gens de voyage, hein, dans le sens spirituel? Notre patrie n'est pas en France, n'est pas dans ce monde, mais au ciel. Et nous sommes des pèlerins et nous avons un but, nous avons le but devant nous. Et le but, c'est le ciel. Et on pourrait lire en 2 Corinthiens chapitre 5 où il dit que nous attendons que d'être au ciel, d'être auprès du Seigneur et d'être revêtis de notre nouveau corps pour être toujours dans la présence du Seigneur. Donc nous sommes des gens de voyage, nous sommes des pèlerins. Notre cité, Philippiens 3:20 nous dit, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ces recueils sont là pour garder les yeux des pèlerins fixés sur le but. Parce qu'ils avaient parfois de longs chemins qui prenaient des jours. Vous vous rappelez, quand Jésus et sa famille reviennent, ils le perdent pendant toute une journée de marche. Et donc, il faut garder leurs yeux fixés sur le but pour qu'ils arrivent finalement jusqu'à Jérusalem. Et en tant que chrétiens, nous devons aussi garder nos yeux fixés sur le but. Le but n'est pas d'arriver à la fin du confinement. Le but n'est pas de reprendre la vie, le courant de la vie comme c'était auparavant. Le but pour nous, c'est notre patrie céleste, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Le cycliste qui commence le Tour de France, déjà le premier jour, il a ses yeux portés vers les Champs-Élysées. Et nous, ce n'est pas les Champs-Élysées, c'est le champ de gloire au ciel. Et il faut garder nos yeux fixés sur le but et la fin de nos vies. Donc, quel réconfort de savoir que dans ce pèlerinage, le Seigneur est quand même avec nous. C'est ça le réconfort dont nous avons besoin, de savoir, oui, maintenant, il sera avec moi un jour, mais est-ce qu'il est avec moi maintenant pendant que je voyage dans ce monde si ténébreux? Et c'est là où nous trouvons le psaume 121. J'ai donné comme titre « Pas à pas avec le Seigneur comme gardien ». Et donc, nous sommes dans ce premier groupe. Le psaume 120 nous donne cette situation de détresse. Et puis, le psaume 121, maintenant, nous donne la solution. Nous allons trouver 6 fois le verbe « garder » dans ce psaume. Peut-être vous pouvez les souligner pour que ça vous touche même la prochaine fois que vous êtes dans ce psaume. Écoutez la parole de Dieu, le psaume 121. Cantique des degrés, cantique des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voici donc la parole de Dieu. Et il y a deux thèmes dans ce psaume. Le premier thème parle des périls inconnus et le deuxième thème parle de la sécurité qui est connue par le psalmiste. On va donc considérer ces deux choses. D'abord, les périls inconnus qui sont mentionnés dans ce psaume. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les périls dont il parle? Et voici, pour les enfants, peut-être vous voyez, j'espère, cette image. Le premier péril dont il fait mention, c'est les dangers dus à l'environnement hostile. Si vous regardez le verset 8, il parle du départ et de l'arrivée. Mais entre ces deux points, entre le départ et l'arrivée, il existe beaucoup de dangers pour ces gens. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas d'autoroute. Ce n'est que des sentiers battus qui montent à travers les montagnes. Et ces montagnes sont dangereuses. Regardez le verset 1 où il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Alors pour vous, peut-être quand vous lisez ça, vous dites « Ah, si seulement je n'étais pas coincé chez moi, je pouvais aller voir ces montagnes ». Ou peut-être vous pensez à des vacances passées dans les montagnes. Mais je suis convaincu que ce n'était pas l'émotion de ces premiers lecteurs, de ceux qui chantaient ce chant quand il disait « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Ces montagnes étaient pour eux intimidantes et redoutables. Ça représentait pour eux des dangers. Il fallait traverser ces montagnes pour arriver jusqu'à Jérusalem. On ne pouvait pas les contourner. Il n'y avait rien à faire que d'avancer. Pour arriver à l'arrivée, il fallait franchir ces montagnes. Nous voyons aussi, versets 5 et 6, nous parle de la chaleur du jour. Alors, peut-être vous pensez avoir chaud l'été, mais en Jérophi, Israël, qui est près de Kedar, qui est mentionné dans le psaume avant, en moyenne, ils ont 122 jours par an où il fait plus que 32 degrés Celsius. J'ai regardé hier soir la météo pour cet endroit et ils annoncent déjà 29 degrés pour jeudi de cette semaine. Donc, il fait souvent très, très, très chaud. Et donc, ce psaume parle donc de la chaleur. Ça, c'est un vrai danger auquel ils doivent faire face. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, deuxièmement, les dangers dus à la faiblesse humaine. Les enfants, vous voyez quelqu'un qui tombe ici, qui glisse. Et ce psaume en parle. Verset 3, il parle du pied qui chancelle. Yvonne à Sarcelles a eu cette expérience au milieu même du culte chez nous il y a 3 semaines. Et même, donc, il y a ce danger qu'en marchant dans les montagnes, notre pied hurte contre quelque chose et on tombe et on ne peut pas se relever. Qu'est-ce qu'on va faire? Et même si vous évitez ces dangers, vous devez tôt ou tard vous reposer. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais traverser toutes les montagnes sans dormir, je vais continuer sans m'arrêter, c'est impossible. Il va falloir, à un moment ou à un autre, s'arrêter pour se reposer. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on dort? Je ne peux pas garder mes affaires, me protéger quand je suis endormi. Les versets 3 et 4 parlent de ce temps de sommeil. Qui va vous protéger dans votre sommeil? Et puis, il y a troisièmement des dangers dus aux hommes méchants. Des dangers dus aux hommes méchants. Le proverbe nous dit que l'occasion fait le larron. Et souvent, pendant ces pèlerinages, les gens en profitaient. Deux possibilités. D'abord, ils laissaient chez eux vide. Il n'y avait personne. Tous les hommes étaient partis. Donc, les gens pouvaient venir pour piller, pour voler pendant leur absence. Ou même eux-mêmes, en voyage, pouvaient être surpris dans les montagnes par des voleurs. Alors, quand vous voyez cette image, les enfants, vous pensez peut-être à une histoire que Jésus raconte, qui se passe dans les montagnes entre Jérusalem. Il dit qu'il descend vers Jéricho, parce que quand même c'est une descente et il n'y avait pas de route à l'époque non plus. Et il est surpris par des brigands. Hein, c'est l'histoire, ce qu'on appelle le bon samaritain. Mais quand Jésus parle de ce danger, il dit, je vais vous lire en Luc 10, verset 30, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Alors, jusqu'à là, dans son histoire, il n'y a rien d'anormal. Les gens vont dire, oh, oui, on connaît ce danger. C'est ce qui vient par la suite qui est surprenant. Mais ce sont des dangers qui étaient réels pour ces gens, et même au temps de Jésus, connaissaient vraiment le danger de voyager. C'est pour ça qu'on voyageait rarement seul. On essayait de voyager en groupe pour se protéger les uns et les autres. Donc même vous, les enfants, vous avez plein de dangers dans la vie. Et c'est pourquoi on est toujours en train de vous dire quoi? Attention, attention, attention. On dit attention, ne marche pas dans la rue. Ou, attention, ne mets pas les doigts dans la prise. Ou attention, ne va pas trop près de l'eau. Ou attention, ne mange pas trop de bonbons. Ou attention, ne fais pas la bise à mamie maintenant. Et vous avez certainement peur aussi. Et pendant les orages ou peut-être la nuit, dans le noir, vous avez peur. Mais j'ai une question. Est-ce que papa et maman peuvent rester éveillés toute la nuit à côté du lit pour vous garder? Bien sûr que non. Ils doivent aussi dormir. Ils peuvent pas te dire, « Oh, tu sais, moi, papa, je ne dors ni ne sommeille. » C'est impossible. Et donc, il y a cette question au verset 1. Regardez la question. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et il a en tête donc ces dangers. L'environnement hostile, la faiblesse humaine qu'il va connaître dans ce voyage, les hommes méchants aussi. Et il se pose la question. D'où viendra le secours? Alors, je vous pose la question, d'où viendra le secours? Les hommes proposent plein de solutions. Mais voici le seul secours qui peut vraiment nous garder. Regardez le verset 2. Le secours me vient de qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et donc, nous avons parlé des périls inconnus. Regardons dans ce psaume la sécurité maintenant qui est connue. Il connaît où est sa sécurité. Et je crois dans les contextes, j'ai déjà dit que les montagnes n'inspirent pas le réconfort, mais plutôt ce sentiment de danger. La première fois que nous voyons ce mot montagne, c'est en Genèse 7, verset 19. Où il dit que le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent submergées. Donc, les gens gravaient les montagnes pour trouver la sécurité, mais au temps de Noé, le déluge, même les montagnes ne pouvaient pas les garder, les sauver. Et nous lisons aussi plusieurs fois dans l'histoire des rois ou de chroniques, que les gens faisaient souvent des autels, ils brûlaient de l'encens, etc. Ils priaient sur toutes les hautes collines et les montagnes. Il y a quelque chose dans les montagnes qui inspire parfois la confiance, même aussi que ça inspire la crainte. Mais nous voyons ici dans les deux premiers versets que Dieu, en fait, est mon secours. Ça, c'est la première chose que je veux noter dans versets 1 et 2. Dieu est mon secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vous tournez une page au psaume 124, verset 8, vous verrez presque la même chose. 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce mot secours se trouve souvent associé au Seigneur. Je vous lis quelques versets. 1 Samuel 7, verset 2. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Eben Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a, et c'est ce mot, nous a secourus. Dans le psaume 20, verset 3, que du sanctuaire tu envoies du secours. Le psaume 30, verset 11, Éternel, secours-moi ou sois mon secours. Le psaume 33, verset 20, notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui. J'aime bien ce verset. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Écoutez ceci, c'est le psaume 46. Et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Car l'Éternel est notre secours. Le psaume 54, verset 6, « Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Je vous lis aussi le psaume 70, verset 6, « Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite, agis en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. » Ou le psaume 115, verset 9 à 11, « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Répétez trois fois. Et le psaume 118, verset 7, l'Éternel est mon secours. Voyez que ces montagnes qui étaient pour certains une cause de crainte, d'angoisse, et de frayeur deviennent un rappel pour penser à celui qui a créé les montagnes. Vous voyez la progression qu'il fait ici? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait donc ces montagnes. Il y avait Dieu qui a créé les montagnes. Donc, il regarde plus loin pour voir le Dieu créateur. Le psaume 90 dit ceci, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc c'est la différence entre David et ses frères. Les enfants, vous connaissez cette histoire de David et Goliath. Il y a le même géant pour les deux, il y a le même problème. Mais pour les frères de David, Goliath était une cause d'alarme. Il était un barrage, si vous voulez, sur la route. Il était un danger qu'il ne pouvait pas affronter. Mais pour David, face au même problème, au même Goliath, c'était l'occasion pour l'Éternel de montrer sa force et sa puissance. Vous voyez les deux façons de voir les choses? Il peut y avoir deux personnes qui font face au même problème, mais il y a une qui ne verra que les montagnes qui bloquent la route et l'autre qui va regarder au-dessus des montagnes pour voir celui qui a créé ces montagnes. Il faut fixer nos regards plus haut même que les difficultés. Voyez la différence donc entre celui qui voit la montagne et celui qui voit celui qui a créé la montagne. Les montagnes ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu. Écoutez ce verset qui parle des montagnes et Dieu doit gérer ce problème. C'est en Ésaïe 40, je suis sûr que vous allez reconnaître ce verset. Il dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Et puis il dit ceci, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute quoi ? Toute montagne et toute colline soit abaissée. » Il va préparer la route pour le Seigneur. Et même les montagnes ne peuvent pas empêcher l'avance de l'Éternel quand il viendra vers son peuple. Donc Dieu est mon secours. Ça, c'est les versets 1 et 2. Et puis les versets 3 à 6, deuxièmement, il parle de ce secours et il veut dire ceci, le secours de Dieu est suffisant. Il est suffisant, ça veut dire il est assez. Suffisant, c'est dans la quantité, la force, l'intensité sont à la juste mesure de ce qui est nécessaire. L'aide de l'Éternel, le secours de l'Éternel est à la juste mesure de ce qui est nécessaire. Regardez verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. On dit parfois qu'il faut avoir une certaine somme d'argent en réserve pour parer à toute éventualité. Mais il n'y a que Dieu qui peut paraît à toute éventualité. On peut faire une nuit blanche, je veux dire, il y a trop de choses à faire ou c'est trop dangereux, je ne vais pas dormir. On peut faire une nuit blanche, mais on ne peut pas faire deux nuits blanches. Et si on est malade, on ne peut pas faire la journée. Le sommeil est trop fort pour nous. Et donc Jésus dit, écoutez ce qu'il dit en Matthieu 6, 30 à 33. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne vous dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, même si c'est du médicament ou un masque, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le psaume 84, verset 12 nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Jésus a dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais Paul a dit, en parlant de Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit, « Avec Christ, par lui, je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, versets 1 et 2, « Dieu est mon secours. » Verset 3 à 6, ce secours est suffisant pour la nuit, le jour, le soleil, la lune, tous les dangers qui nous confrontent. Et puis au verset 7, nous voyons que le secours de Dieu est global, il est complet, il est intégral, il est absolu, il couvre tout. Il dit verset 7, c'est comme s'il veut tout résumer ici. « L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. » Nous entrons dans le domaine personnel, le domaine moral, le domaine spirituel, en parlant du mal et de l'âme. Et Matthieu 10, 28, Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Vous voyez, c'est Dieu qui garde l'âme. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Et donc, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et c'est pour ça que nous prions, puisque c'est Dieu qui nous garde tout mal et qui garde nos âmes. C'est pour ça que nous prions, Matthieu 6, verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, celui qui est le mal, Satan. » Et 1 Jean 4, verset 4, nous avons la promesse, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis le verset 8. Le secours de Dieu est éternel. C'est la dernière chose que je veux noter. Le secours de Dieu est éternel. C'est pas pour 2 jours, 3 jours. C'est pour toujours. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il y a 2 images ici. Il y a le départ et ça va peut-être prendre des mois, mais ton arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il garde tout ce qui est entre les deux. Hein, que s'il garde ton départ et ton arrivée, c'est une image pour dire qu'il garde tout le voyage. Et il dit dès maintenant et à jamais, il te garde. Le psaume 125, premier verset, dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Hein, » c'est, au lieu de ces montagnes, c'est l'Éternel qui vous entoure, dès maintenant et à jamais. Vous connaissez le psaume 23, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il termine ainsi, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et c'est l'expression « à longueur de jour ». Et c'est une expression qui parle d'un phénomène où il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. L'Osterwald le traduit ainsi, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Le secours de l'Éternel est éternel et sans fin. Donc les versets 1 et 2, je résume. Dieu est mon secours. Versets 3 à 6, le secours de Dieu est suffisant pour tous nos problèmes. Verset 7, le secours de Dieu est global ou intégral ou absolu. Il couvre tout, spirituel ainsi que physique. Et verset 8, le secours de Dieu est éternel. Il ne prendra point de fin, et nous terminerons en habitant dans la maison de l'Éternel pendant l'éternité. Alors, où se trouve ce secours? Il ne se trouve pas dans un endroit, tel que les montagnes, ou dans une ville, ou derrière un masque. Ce secours se trouve dans une personne. Et la Bible est claire que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous méritons tous sa colère et nous ne pouvons nous protéger de sa fureur. Rappelez, en Apocalypse, les gens vont crier au rocher en montagne, il dit « tombe sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau ». Mais les montagnes ne pourront pas leur sauver, ne pourront pas les aider. Il faut maintenant courir vers le juge lui-même. Il faut courir vers le berger, vers le Seigneur Jésus. Il est la seule protection qui pourra nous sauver maintenant et pour toujours. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Notre secours se tient en Jésus-Christ. Et mes amis, Dieu ne vous promet pas que vous n'allez pas mourir même de ce virus. Et si ce n'est pas de ce virus, vous allez mourir de quelque chose si le Seigneur Jésus ne revient pas avant. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu? Es-tu prêt à voir Christ? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Est-il ton sauveur et ton maître? Aujourd'hui est le jour du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur maintenant à Jésus-Christ. Et sachez, mes amis, que si nous le faisons, il sera tout le secours dont nous avons besoin. Nous sommes sains et saufs dans la main du Seigneur. Prions ensemble. Ô notre Père, tu as été avec nous aujourd'hui et par ta parole, tu nous as apporté de la lumière pour notre compréhension. Tu nous as aussi apporté du réconfort et nous puissions que chacun, chacune qui sont rassemblés maintenant spirituellement dans ces moments, nous puissions nous-mêmes et personnellement nous confier de nouveau en toi, sachant que tu fais toutes choses belles en t'entendant et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Dieu, s'il te plaît, que ces moments de souffrance ne soient pas gaspillés, mais que nous puissions apprendre tout ce que tu as pour nous et ressortir plus fort spirituellement à cause de tout ce que tu fais pour nous. Nous te louons, sois honoré, nous prions. Amen.